prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème : intelligence à connaître Dieu.
Donc, livre du prophète Jérémie, chapitre 9. Jérémie, chapitre 9, verset 23. Voilà ce que nous partageons, ce que nous lisons ensemble. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers ces deux versets. Il n'y a pas une très longue lecture ce soir, mais nous allons méditer sur cette parole inspirée de Dieu et donnée à ce prophète d'Israël que nous connaissons sous le nom de Jérémie. Et j'aimerais simplement, en introduction, partager avec vous les mots-clés de ce passage. Il est question de la sagesse, il est question de la force et de la richesse, avec un dénominateur commun, ou peut-être davantage, si je m'exprime ainsi, un objet détourné, c'est-à-dire l'orgueil. Ne se glorifie pas, ou ne te glorifie pas. Sous-entendu naturellement de la sagesse humaine, de la force et également de la richesse. Alors, nous allons reprendre un peu ce que veut nous dire ce passage. Il est question, dans un premier temps, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Le sage, il y en a toujours eu sur la terre, il y en a certainement encore. Et il y a peut-être quelque chose qui caractérise la sagesse humaine, on l'a déjà partagé il y a un instant, c'est peut-être cette suffisance et cette prétention de savoir, de connaître. Et nous savons que c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle ces mots. Il nous est dit que la connaissance enfle, mais que l'amour édifie. Que l'amour, est propre, finalement, à faire quelque chose de bien. Et en ce qui concerne la sagesse humaine, il y a un grand homme biblique, un grand homme de foi, qui s'appelait Paul, qui, lui, dans le courant de son existence, avait pensé probablement au début de sa vie qu'il était sage. Il connaissait Dieu. Il avait été instruit dans certainement cette sagesse particulière chez les Juifs, au pied d'un homme, un homme éminent, une sommité, dans la connaissance de l'Écriture sainte de la Bible, qui s'appelait Gamaliel. Et nous savons qu'un jour, il s'est aperçu que toute cette sagesse-là n'était qu'une vanité. Et il l'écrira d'ailleurs dans une de ses lettres. Il dira: maintenant ces choses, je les regarde comme une perte, comme de la boue. Alors, ça c'était naturellement ce que pensait Paul. Et je crois que quand il l'a écrit, c'est que quand on connaît qu'une chose, on ne peut pas faire de comparaison, on ne peut pas faire de différence. Et lui avait connu cette sagesse qui était propre à l'esprit des Juifs. Et puis, dans sa conversion, à travers cette rencontre avec Jésus-Christ, il avait découvert autre chose. Qu'il y a bien une sagesse humaine qui qui a ses aspects positifs, hein, il ne faut pas tout rejeter, mais qui n'est absolument aucunement d'aucune utilité pour sauver les âmes, pour apporter la paix intérieure, pour donner une véritable satisfaction, pour amener au salut. Et il avait opté pour cette sagesse qu'il avait découverte un jour sur le chemin de Damas. Alors il écrira ce texte que j'aimerais partager avec vous, ça fait partie de notre réflexion. Il écrira cela en ce qui concerne la sagesse au 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 17 ou au verset 18 plutôt. Il dira ceci, je le lis simplement, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents avec cette interrogation, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Voilà. Voilà ce qu'il pouvait écrire, ce qu'il a pu écrire et ce qui demeure. Une parole pour tous ceux qui, sont en recherche non seulement de la sagesse, mais de la vérité, de parvenir à la lumière. Et nous voyons que l'apôtre Paul osera dire, dans un monde de raison, dans un monde de sagesse, qu'elle soit judaïque ou qu'elle soit helléniste, c'est-à-dire la sagesse des Grecs, proverbiale, il osera dire que le salut, la rédemption de l'homme, elle ne se fait qu'à travers cette prédication de la croix. La prédication de la croix, c'est en d'autres termes tout simplement l'évangile. Que quelqu'un a donné sa vie pour le salut du monde. Que quelqu'un a payé le prix de notre rédemption et aujourd'hui nous assure de la vie éternelle. Vous savez, tous ces mots sont dans la sagesse humaine. La vie, le bonheur, la paix, la sérénité. Cette condition qui arrache l'homme à toutes les contingences de cette terre, toute cette misère, tous ces drames, toute cette souffrance, en passant par la mort, la question, le grand questionnement de la mort. Et Paul osera dire, mais c'est par la prédication de la croix. Alors c'est d'une folie pour ceux qui périssent, parce qu'on se dit, mais comment une telle chose peut m'amener véritablement à connaître la dimension de l'éternité ? En croyant en un homme qui a donné sa vie sur une croix, qui est mort comme un malfaiteur, à partir du moment où j'adhère, à partir du moment où je crois à son sacrifice, je suis sauvé. Ça paraît tellement simple. Ça paraît tellement puéril, ça paraît tellement dérisoire. Alors que, quelque part, c'est par ce moyen-là que Dieu a voulu sauver les âmes. Parce que on n'est pas sauvé par nos œuvres, on n'est pas sauvé par notre connaissance, on n'est pas sauvé par tout simplement nos mérites ou autre chose. On est sauvé par la foi. Et c'est la prédication de la foi, la prédication de la croix de Jésus que je saisis, auquel je fais confiance, qui me donne l'assurance de mon salut. Donc, c'est une folie pour les hommes. C'est une folie aussi pour l'homme religieux qui veut se sauver par lui-même, à travers toutes sortes de sacrifices de sa personne, à travers toutes sortes de choses, dans un acte méritoire, pour essayer de tout simplement se racheter. Non. L'apôtre dira, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu. Il ne nous est pas dit que c'est une sagesse. C'est une sagesse de Dieu, mais c'est une sagesse qui a de la puissance. Alors que toutes les autres sagesses de la terre sont sans puissance, sinon de nourrir l'orgueil, de nourrir une illusion, de nourrir quelques prétentions, ou tout ce que voudrait. Et Dieu avait dit dans sa parole, il avait dit ceci, « Je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Puisque les hommes, depuis les temps immémoriaux, ont bâti toutes des plans qui font que si l'homme, essaie d'enrayer ce processus de la corruption à travers toutes sortes de choses, alors les philosophies, les théologies, la religion, toutes sortes de pratiques, mais Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages, parce que ce n'est pas comme ça que l'on est sauvé. et à travers tous les grands empires qui sont passés sur la Terre, aujourd'hui encore, dans nos philosophies modernes, on essaie de trouver une rédemption ou un secours de l'humanité. On se dit, bien, c'est certainement à travers, eh bien, peut-être une politique, ou à travers une économie, et on voit que les unes après les autres, elles s'effondrent, parce que ce n'est pas ça, je détruirai la sagesse des sages. Alors, où est le sage, où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Et s'il y a quelque chose de très caractéristique dans notre nation, nous en France, c'est la raison. La raison qui annule complètement le mouvement de foi du cœur de l'homme. Et on s'aperçoit que c'est une parole qui s'adresse, c'est vrai, encore actuellement pour ceux qui l'entendent. Et il nous est simplement rappelé que Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde, puisque le monde, par sa sagesse, n'a pas connu Dieu. On s'est créé des dieux, des faux dieux, des demi-dieux, mais le vrai Dieu, on ne peut pas l'atteindre de cette manière. On ne l'atteint pas avec la matière grise ou avec l'intelligence, l'intellect. C'est dans un mouvement de cœur. C'est dans une prise de position dans la foi et dans la confiance, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il est, qu'à ce moment-là, nous pouvons être sauvés. Alors, le monde, à travers toutes ces philosophies, il y en a eu des milliers, il y en a encore, hein, à travers tout ce que vous voulez imaginer, tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, le monde n'a jamais trouvé la solution. Il n'a pas trouvé la réponse à la mort. Ce qu'il était avant, ce qu'il est aujourd'hui et où il va. Ce sont des grandes questions fondamentales qui perturbent et qui interrogent encore les hommes d'aujourd'hui, malgré leur grande intelligence. Alors, il nous est dit que Dieu les a convaincus par la folie de la prédication. C'est pourquoi il nous est dit, mais que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, parce que ce n'est pas sur ce chemin-là que l'on atteindra, finalement, eh bien, la rencontre avec Dieu. Et je parlais de Paul tout à l'heure, qui lui croyait que c'était à travers la religion, qui était quand même une religion de révélation, le judaïsme, eh bien, que l'on s'approchait finalement de ce grand Dieu créateur, de ce Dieu d'Israël, de l'Éternel, comme il l'appelait. Et jusqu'au jour, il a rencontré, il a fait une expérience. Je dirais que ce n'est pas par la connaissance, mais c'est plus par une expérience d'une rencontre avec Jésus-Christ. Confronté avec sa parole, qui va susciter dans nos cœurs, eh bien, la foi qui nous donne la vie, tout simplement. La vraie et la fausse sagesse. Encore une autre démonstration. Dans l'épître de Jacques, simplement, et pour ne citer que ce passage, écoutez ce passage, écoutez cela. Il nous est dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» C'est une interpellation pour tous les hommes. « Alors qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Parce que la sagesse, la vraie sagesse, elle se démontre par des fruits. Non pas tant par des œuvres, mais par des fruits. Des fruits qui correspondent, eh bien, à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la foi, et puis bien d'autres encore, que je ne cite pas. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ça nous ramène justement à ce que dit le prophète Jérémie, que celui qui est sage ne se glorifie pas. Si, véritablement, eh bien, convaincu de sa sagesse, il force les autres, il contraint les autres à être, à vivre, à penser comme ils pensent, sans la douceur de la sagesse. C'est une fausse sagesse. Et il dira même, et c'est Jacques qui le souligne, « Mais si dans votre cœur, même si vous avez la plus grande de toutes les sagesses, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, de la jalousie, un esprit de dispute, eh bien, ne vous glorifiez pas et ne mentez surtout pas contre la vérité parce que ce n'est pas la vérité. Votre sagesse ne procède pas de la vérité. Elle n'est pas lumière. » Et il ira même dire, Jacques, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en Dieu, d'en haut, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu, mais elle est terrestre, elle est charnelle. » Et il dira même, « Elle est inspirée du diable, elle est diabolique. » Parce que là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous savez, le monde entier a été encombré de toutes sortes de sagesse, de philosophie, de toutes sortes de théologies religieuses. Et vous savez ce qu'on a fait avec tout ça? On a mis les hommes à s'entretuer les uns avec les autres, sous le couvert de Dieu, sous le couvert d'une intelligence, sous le couvert de je ne sais quelle pensée, théorie, et les hommes se sont affrontés, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique. On le voit, c'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Et il dit, mais cela procure que des mauvaises actions et le désordre. Et on est loin de l'unité des hommes sur la terre. Hein. Parce que chacun pense. Et chacun défend un peu sa théorie, ou sa philosophie, ou sa religion. Et par contre, en deux mots, il nous est dit que la sagesse qui vient d'en haut, celle qui vient de Dieu, elle est pure, elle est pacifique, donc il y a la paix dedans. Elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie, parce que le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Voilà ce que nous dit l'apôtre Jacques. Et lorsque je reprends le premier texte d'origine, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Dans ce que Jérémie dit, il y a la notion de supériorité intellectuelle. Parce que je pense, parce que je me sens plus capable que les autres, alors je suis certainement quelqu'un de bien. Et puis les autres sont certainement en dessous de moi, en dessus de moi. Le savoir et l'ignorance. Le savoir et l'ignorance qui amènent le mépris sur ceux qui ne savent pas, sur ceux qui ne connaissent pas. Et ça, c'est terrible, parce que je suis plus intelligent que les autres. C'était le problème des pharisiens. Les pharisiens, ils se piquaient d'un orgueil et d'une suffisance inimaginables. D'ailleurs, Jésus les a combattus avec vigueur, parce qu'il disait, mais le bas peuple, ils ne connaissent rien, ce sont des ignorants. Ce sont des pauvres gens. Et vous savez, dans notre société aujourd'hui, comme dans la société du temps de Jésus, comme dans la société de Paul lorsqu'il était à Athènes, lorsqu'il discutait avec les philosophes épicuriens et stoïciens, ces philosophes regardaient Paul comme un pauvre garçon, comme quelqu'un qui ne connaissait pas. Et vous savez, c'est très humiliant d'être interpellé intellectuellement, d'être abaissé en disant « mais t'es rien, tu penses pas, tu ne sais pas ». Et justement, c'est ça. C'est ça, justement, la confusion que Dieu amène sur les hommes. Parce que, vous savez ce qu'a dit Jésus un jour, « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire l'Évangile, la rédemption en Jésus-Christ, et tu les as révélées aux enfants. Et ceux qui se croient savoir ne savent rien de la vérité, de la lumière et de Dieu, de la vie, de la mort et de toutes choses. » Et nous voyons que la vraie connaissance, elle vient, et elle ne peut se développer que quand il y a de la modestie et de l'humilité, comme les enfants. Et nous voyons que, quand il nous est dit cette parole, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, parce que cette sagesse-là n'est pas celle de Dieu. C'est une illusion, c'est un sophisme, c'est une pensée, parce que ça rend orgueilleux. C'est une supériorité intellectuelle. Et nul homme ne peut être supérieur intellectuellement. Le savoir et l'ignorance. Ceux qui croient savoir ne savent rien, ce que nous dit la Bible. Et ceux qui sont ignorants en apparence connaissent peut-être davantage s'ils connaissent Jésus-Christ. Parce qu'en connaissant Jésus-Christ, on connaît tout. On connaît tout. Façon de parler, il y a bien des choses que nous découvrirons de l'autre côté. Mais néanmoins, nous sommes sur la voie de tout connaître. Et ça, c'est exaltant pour les enfants de Dieu, déjà de pouvoir lire la Bible, et pas de la lire d'une manière obtuse, mais de la lire avec l'ouverture et la compréhension que donne le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose de merveilleux. Parce que nous sommes devant un océan infini de connaissances et de révélations. Et ce que nous connaissons ici-bas, c'est peu de choses avant de connaître ce que nous aurons et ce qui nous sera révélé de l'autre côté. La deuxième proposition qui est faite, c'est que le fort ne se glorifie pas de sa force. Alors, nous avons un exemple emblématique de la force. Un personnage haut en couleur, mais haut sur pied aussi. Vous connaissez l'histoire de Goliath. Je cite parce que je pense qu'il peut être mis en avant. Goliath est en quelque sorte l'image, l'emblème de ce qu'un homme peut être fort. C'était un géant. Vous connaissez, c'est l'histoire qui est racontée dans 1 Samuel, chapitre 17. Vous avez un grand Goliath, enfin, c'est un un euphémisme, parce qu'il était grand, il était géant. Hein? Et vous avez un petit David à côté. Et figurez-vous, mais vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous le demander de deviner ce qui va gagner. Mais et c'est ça justement le paradoxe de Dieu. Ce qui est sage aux yeux des hommes devient folie aux yeux de Dieu. Ce qui est fort aux yeux des hommes devient faiblesse aux yeux de Dieu. Et vous savez comment il a fini, notre brave Goliath ? Il était fort parce qu'il était grand. Il était fort parce qu'il était super armé. Il était fort parce qu'il était en renommée. Il était fort parce qu'il se moquait. Il était fort parce qu'il insultait l'armée d'Israël et le petit David qui s'est approché de lui. Et vous savez qu'à la fin du combat, celui qui est resté en bas, celui qui est resté sur le terrain, ce n'était pas David. C'était Goliath qui s'est retrouvé à terre. Pour montrer que Dieu est capable de renverser, finalement, toutes les prétentions humaines, tout ce qui nous semble, finalement, eh bien, fort. La force n'est pas celle que nous pensons. Ce n'est pas la force des militaires qui, avec des avions et des chars et des bombes, va écraser un pays. Ce n'est pas la force de ceci ou de cela. Parce que ça, ce n'est que de la faiblesse. La véritable force, elle se trouve, nous dit la Bible, nous dit surtout l'Évangile et le sermon sur la montagne, les béatitudes, précisément dans ce qui ne semble pas fort, dans ce qui est humble, dans ce qui est petit, dans ce qui voire même est méprisable, dans ce qui ne paraît pas. Et ça, c'est quelque chose que nous trouvons également dans l'Épître aux Corinthiens, parce que je n'ai pas mis la référence, mais on peut la trouver aisément, parce que cela nous est montré, justement, la manière dont Dieu voit les choses. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Écoutez, il est dit que parmi vous qui avez été appelés, Paul parle à des chrétiens, parmi vous qui êtes chrétiens, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Quand nous réfléchissons à la signification de l'Évangile, les principes de Dieu sont à l'inverse des principes du monde. Ça, il faut que nous le comprenions. Hein. Parce que ça, c'est élémentaire. C'est ce que Jésus, en tant que révolutionnaire de l'humanité et du monde, est venu apporter ces notions-là. Et nous voyons que l'histoire de Goliath dont nous parlions tout à l'heure est véritablement le symbole de cela. Il arrive, il se dit, moi je vais mettre tout en déroute, et finalement c'est lui qui est en déroute. Parce que derrière la force humaine, la prétention humaine, il y a encore ce venin, il y a encore ce poison qui détruit l'homme, c'est l'orgueil. Regardez les gens qui sont forts. Regardez les gens qui sont en bonne santé et forts. Ils ne peuvent pas comprendre ceux qui sont faibles, qui sont malades. Regardez les gens qui ont un pouvoir. Ils écrasent les autres, hein, parce qu'ils se disent, moi je suis fort. Vous savez, un fort, c'est très bien qu'il est fort et il en abuse. Ouais, c'est ça le problème. Et la force, compris dans cette pensée, amène les gens à, quelque part, aller au-delà de leur droit. Et avec cette force-là, eh bien, on est capable finalement eh bien, d'anéantir les autres. C'est pour ça que le monde a toujours cherché d'avoir des armes supérieures aux autres, d'avoir des armées plus nombreuses, d'avoir ceci, parce que ça rassure. Je suis fort, je me confie dans ma force, et personne ne me touchera, personne ne pourra me... L'histoire de ce que nous appelons depuis 50-60 ans, l'arme stratégique, la bombe nucléaire, qu'est-ce que c'est ? On ne va pas l'utiliser. On l'a utilisé une fois, enfin deux fois. Mais on n'a pas envie de le réutiliser. Parce qu'on sait, on l'a appelé stratégique. Parce qu'on se dit, c'est un bouclier de dissuasion. Et ceux qui la possèdent disent, bon, d'accord. Si vous me touchez, vous courez le risque d'être anéanti. Hein. Et c'est quelque chose d'abominable et d'épouvantable. Donc c'est ça le problème. C'est ça. Et dans cette notion qui nous est dit que le fort ne se glorifie pas de sa force, il y a la notion physique, de la force physique. Je t'écrase parce que je suis fort. toi tu es faible. C'était l'histoire des Hébreux avec Pharaon en Égypte. Et dans bien d'autres domaines, pour revenir à une situation biblique, c'est en quelque sorte la notion de la contrainte. Parce que je suis plus fort que toi, eh bien je te contrains à faire, à être, à penser, à vivre comme moi je vis. C'est le choc de culture. Une culture qui, finalement, s'impose à une autre. Ça, les gens n'aiment pas ça. C'est une notion de domination sur l'homme. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa force, parce qu'il ne sait pas que, finalement, sa force n'est rien du tout. C'est du vent. D'ailleurs, on l'a vu dans les grands conflits de l'humanité, et ne serait-ce que la dernière guerre mondiale, quand on a vu cette guerre éclair en 1939-1940, et qu'ensuite, derrière ce déploiement de feu sur tout le monde entier, qu'après il y a eu cette catastrophe, c'est-à-dire la chute de... Enfin, catastrophe, oui. La défaite de l'Allemagne. Parce qu'il se croyait tellement fort. Parce qu'il y en a un qui est maître de tout cela. Et qui humilie les forts. Et je crois que nous, dans notre notion chrétienne et dans notre pensée chrétienne, faisons attention de ne pas penser que nous sommes forts. Si nous sommes forts, nous le sommes par le Seigneur. Et encore, de quelle force s'agit-il ? Ce n'est pas une force pour faire du mal. C'est une force d'amour. C'est une force de paix. C'est une force d'unité. Mais pas son contraire. Alors, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa force. Les dominants et les dominés. Il y a un troisième point que j'aimerais voir avec vous. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Vous savez que dans le livre des Proverbes, je cite, au chapitre 10 et au verset 15, il est dit « La fortune est pour le riche une ville forte. » Vous connaissez, vous l'avez lu ça. Vous lisez les Proverbes tous les jours. C'est très intéressant les Proverbes. Ah oui, quand on veut bien y réfléchir, il y a des choses extraordinaires dans la sagesse. Mais la vraie sagesse, pas la sagesse humaine, une sagesse qui est supérieure. Je relis « La fortune » et pour le riche, une ville forte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça lui donne l'illusion de la sécurité et de l'invulnérabilité. Il se dit, moi j'ai des biens, j'ai de l'argent, avec ça, je ne crains rien. Et vous savez le monde d'aujourd'hui, hein, on en discute beaucoup en ce moment, hein, dans le partage des richesses. Le monde dans lequel nous vivons, le monde occidental, dont nous faisons partie, qui n'est quand même pas à la queue du peloton dans l'humanité. Hein. On a quand même pas mal de choses dans notre pays, au regard des pays sous-développés. Alors, à ce moment-là, on raisonne de telle manière qu'on pense bien qu'on n'a pas besoin de Dieu, on peut faire l'impasse sur Dieu. Et vous savez, nos pays riches n'ont jamais été aussi incroyants, n'ont jamais été aussi irreligieux, n'ont jamais été aussi... antichrétien, tout en ayant l'étiquette, ou en revendiquant peut-être la religion chrétienne, mais ce n'est pas en revendiquant avec des étiquettes, ou avec des rites, ou avec des apparences, ou avec des traditions et des cérémonies, des coutumes, que l'on est chrétien. Être chrétien, c'est autre chose. Mais on fait l'impasse sur Dieu et on se dit, bien, avec nos avoirs, avec les biens, nous sommes intouchables. Regardez. Moi, je ne sais pas, vous êtes peut-être très riche, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'un riche, il se permet tout, il peut tout acheter. Hein. Mais il y a une chose qui nous est dit aussi dans le livre des Proverbes ou dans les livres poétiques de la Bible, il nous est dit que de toute façon, hein, c'est dans les psaumes, psaume 49, il nous dit que l'homme insensé, ne peut racheter le prix de son âme. On peut acheter beaucoup de choses. On peut se donner des richesses, on peut être couché sur un empire de trésors et de toutes sortes de choses. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le jour de notre mort, nous ne le maîtrisons pas. Et ce n'est pas l'argent qui va faire la différence. Et pourtant, dans ce monde, le monde fonctionne. Avec tout ce que nous avons, ces débuts, ces dernières années, avec ces scandales financiers, avec cette réduction, on pourrait dire, finalement, eh bien, des uns à la pauvreté et puis les autres en élévation, à être toujours de plus en plus riches. C'est que cela inspire une illusion de sécurité en disant, bien, mon Dieu, c'est l'argent. Mais Jésus nous l'a dit d'ailleurs. Il nous a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on va mépriser l'un ou on va servir l'autre. Et nous vivons dans vraiment cette époque, plus que jamais, où Mammon est le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce temps. Mais il l'a toujours été. Hein, et plus que jamais aujourd'hui. Parce que ça nous donne une illusion en disant, ben voilà, je suis sécurisé parce que j'ai un petit avoir. S'il m'arrive quelque chose, ça n'empêchera pas. Ça peut aider. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est une illusion. Et on n'est pas invulnérable parce que on a de la fortune. Écoutez bien ce que nous dit l'apôtre Paul, je reviens à lui parce que je pense qu'il a certainement médité sur toutes ces questions, parce que c'était les questions de ses contemporains, les questions de son temps, de son monde. Dans 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 17, écoutez bien. Paul dira à Timothée ces paroles. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. » Quand on a un peu d'avoir ou un peu d'argent, on en fait la démonstration pour que tout le monde le sache. À moins d'être super sage. Ah oui, d'avoir une belle voiture, une belle maison, des belles voitures, des belles maisons, et ceci et cela, on en fait la démonstration. De ne pas être orgueilleux. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Parce qu'aujourd'hui, elles sont là, mais demain, tout peut dégringoler. Hein. On ne sait pas ce que vaut l'économie. Quelle est la solidité de l'économie d'aujourd'hui? C'est vraiment incertain. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Vous ne trouvez pas que ce sont des paroles extraordinaires pour nous et pour tous les hommes? Que notre vraie richesse, notre vrai trésor, comme Jésus le laissera entendre, faites-vous un trésor dans le ciel où les voleurs ne peuvent dérober, où la rouille ne peut percer. Il est bien dit dans cette différence, dans cette comparaison, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Le Seigneur n'est pas pour la restriction de ses enfants. Mais il veut que lorsque nous avons quelque chose, nous le reconnaissons comme lui, étant le donateur et le dispensateur pour que nous lui disions merci. Est-ce que les riches incroyants disent « Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir donné de la richesse » Ils se disent « Non, c'est par ma force, c'est par ma sagesse, c'est par mon habileté, c'est par mon intelligence que je me suis acquis cela, et c'est pour moi et c'est à moi seul. » Alors qu'un chrétien raisonne différemment. On n'est peut-être pas riche, mais on est plus riche qu'on peut l'imaginer. Ouais. On n'est peut-être pas riche, mais on est certainement beaucoup plus en paix à l'intérieur, puisque nous avons peu de choses ou nous avons si peu, que ça vienne, que nous ayons ou que nous n'ayons plus, on savait qu'il y aura toujours quelqu'un qui va pourvoir, ce sera notre Dieu. Et ça, c'est la foi. C'est la foi. D'être riche pour Dieu, de mettre notre confiance en Dieu. Parce que s'il y a quelqu'un de riche, c'est notre Père Céleste dans les cieux. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Dieu ne va pas nous donner peut-être des richesses fabuleuses pour que nous perdions la tête, mais va nous donner ce que nous avons besoin pour que nous puissions en jouir et que nous puissions lui dire « Mais merci Seigneur, parce qu'au moins ce que j'ai, parce que c'est toi qui me l'as donné, je reconnais que c'est une grande valeur. » Ça changera tout. Hein. Ça change tout. Recommande-leur aux riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Voilà ce que Paul disait. Alors, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Dans cette troisième perspective, il y a la notion du bien, des biens et de l'avoir matériel, posséder, qui confère le pouvoir. Parce que je suis riche, eh bien, j'ai le pouvoir sur les autres. C'est vrai. Parce que je peux les acheter, je peux les faire taire, je peux les manipuler. C'est l'origine de tous les scandales qui arrivent partout. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Et en conclusion, il est dit ceci, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie. C'est pas défendu de se glorifier. C'est surprenant. C'est pas interdit. Mais que celui qui se glorifie, alors à ce moment-là qu'il ait l'intelligence, qu'il ait la sagesse, qu'il ait la force intérieure, qu'il ait cette richesse de la connaissance qu'il a, de la pensée de Dieu, alors s'il veut se glorifier, qu'il se glorifie, et ça ce sont des mots extraordinaires, d'avoir de l'intelligence de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel. Et quand on a compris ça, on a tout. on a tout compris. Et quand on a saisi ces choses, mais nous sommes les gens les plus forts du monde. Nous sommes les gens les plus riches du monde. Et nous pouvons dire que les chrétiens sont les gens les plus sages du monde. Parce qu'elle n'est pas en nous, cette sagesse. Elle ne vient pas de l'homme, mais elle vient d'en haut. Et cette sagesse-là, elle nous donnera toujours l'amour. Elle nous donnera toujours à partager avec les autres. Elle nous donnera toujours la compassion pour ceux qui souffrent. Compassio, souffrir avec. Elle nous donnera toujours ses qualités, ses fruits qui sont en Dieu, parce que nous porterons le caractère de Dieu. Et connaître Dieu, c'est de savoir qui il est. C'est de savoir comment il est. Quelles sont ses prérogatives divines. C'est pourquoi il est bien marqué d'avoir de l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel. Or, le monde qui fonctionne humainement parlant, avec sa sagesse, avec sa force et sa richesse, est un monde qui a exclu Dieu, où Dieu ne compte pas, Dieu n'existe pas. Ou alors, le Dieu qu'il s'imagine, c'est un Dieu qu'il a remplacé par l'argent, par le pouvoir, par le savoir, tout ce que voudrait. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que le Dieu dont nous parlons, celui de la Bible, celui qui nous enseigne ce soir, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas une idole. Ce n'est pas un faux Dieu, c'est un Dieu vivant. De savoir que je suis l'Éternel. Intelligence de me connaître. Vous savez qu'il y a une belle parole de Jésus dans l'évangile de Jean, écoutez. L'intelligence de me connaître. Dans chapitre 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est Jésus qui dit cela dans cette prière qu'il adresse à son Père Céleste. Il dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça la vraie force, c'est ça la vraie richesse, c'est ça la vraie sagesse. La vie éternelle. Parce que Dieu est éternel et il donne la vie à ceux qui croient qu'il est, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et pas seulement de connaître Dieu, mais de connaître celui que tu as envoyé, celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire la personne de Jésus. Puisque Jésus nous rappelle, sous ce triptyque, chemin, vérité et vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Et simplement pour conclure, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Vous remarquez que c'est une réponse, ces trois mots, bonté, droit et justice, sont une réponse à la sagesse humaine, à la force humaine et à la richesse humaine. La bonté divine répond à l'égoïste de la sagesse, de la richesse. Le droit divin répond à la force aveugle du fort. Et la justice divine a l'iniquité de prétendre ou de se prétendre sage. C'est pourquoi Dieu, voilà, il se le dit, il se fait connaître, parce que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est pour les hommes de la terre que les choses sont dites. C'est pour nous, les uns et les autres, en tous les cas pour nous le rappeler, car c'est à cela que je prends plaisir. À cela que je prends plaisir. Dieu prend plaisir à quoi ? À voir des hommes qui sont en train de cogiter le mal, des stratégies, toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu, avec le salut de Dieu. Est-ce que Dieu se glorifie de voir des armées écrasées par la force d'une manière ou d'une autre, d'autres hommes ? Parce que nous sommes tous de la même race, du même argile, de la même pâte. Est-ce que Dieu prend plaisir finalement, avoir cette opulence, cette richesse, quelquefois, enfin, je ne trouve pas le mot, mais qui est écœurante. Non. Dieu prend plaisir à ce que les hommes le reconnaissent, lui, comme l'Éternel, comme le vrai Dieu. Et vous savez, il y a une chose à laquelle Dieu prend plaisir. Je termine sur ce mot. Vous l'aurez lu dans le livre du prophète Habacuc, vous l'aurez lu également dans le livre des Romains, vous le lirez également dans le livre des Hébreux, il est cité trois fois. Dans laquelle chose Dieu prend plaisir ? C'est quand Dieu dit « Et mon juste vivra par la foi ». C'est ça justement la finalité de tout. c'est la foi qui fait la différence. Et s'il n'y a pas la foi dans la sagesse, s'il n'y a pas la foi dans la force, s'il n'y a pas la foi dans la richesse, mais la foi en Dieu, eh bien je peux vous dire que tout cela est corrompu. Tout cela devient mauvais. Tout cela devient quelque chose de contraire. Parce que notre foi, elle est en Dieu, qui est capable de changer la sagesse, de changer la force et de changer la richesse. De modifier le cours des choses pour que dans, finalement, eh bien, leur destination ou leur objet, dans leur but, les hommes s'en servent égoïstement pour faire du mal ou pour eux-mêmes, eh bien, ce soit des choses qui enrichissent plutôt. Et il y a une véritable sagesse, il y a une véritable force, il y a une véritable, également, une véritable richesse, c'est celle que Dieu nous donne. Et mon juste vivra par la foi. Alors, je crois que si nous voulons vraiment nous approcher de Dieu, eh bien, il faut intégrer ces choses. Il faut demander à Dieu qu'il nous donne vraiment de comprendre cela, en rappelant une dernière fois que les principes qui régissent ce monde sont tout à fait à l'inverse et le contraire de ceux du royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir et nous allons simplement demander à Dieu sa grâce et lui demander qu'il nous donne vraiment de comprendre avec son intelligence, sa sagesse et puis le grand point fort qui nous appartient à chacun, c'est vraiment de le reconnaître comme notre Dieu et notre Sauveur.